Donc, quelqu'un se souvient dans quel livre on est ? Éphésiens, chapitre 6 et le verset 1. Merci. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Si vous avez la même Bible que moi et que vous tournez les pages sans trouver, c'est la page 769. Alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez cette citation ? Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne les reconnaissent plus, au-dessus de l'autorité de rien ni de personne. Alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Vous pensez que ça a été écrit par qui ? Alors, bon, on va faire un petit quiz. Est-ce que ça a été écrit cette année ? Non. Il y a 2 ans ? Il y a 5 ans. Il y a 50 ans. Non. Il y a plus de 1000 ans. Oui. Il y a plus de 2000 ans. Ah, il y a encore 2 qui suivent là. Les autres, ils ont commencé à faire leur liste de courses pour la semaine prochaine, là, j'ai l'impression. En fait, ça a été écrit par un gars qui s'appelle Platon. 400 ans avant Jésus-Christ. Comme quoi, on peut se plaindre de nos enfants, mais finalement, ça semble être un problème éternel, en fait, la question de l'obéissance, de l'autorité, la question de l'enseignement. Et c'est là où je me dis, mais que faire ? Si en 2400 ans, on n'a rien réglé, que faire ? Heureusement, mes amis, on a un livre avec nous qui s'appelle « La Bible ». Et qui me donne peut-être quelques bonnes pistes à creuser ensemble. Et je me pose cette question, mais est-ce que lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de personnes, lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos familles, est-ce que nous pouvons nous attendre à quelque chose de grand dans nos relations, dans la famille, dans nos relations avec nos enfants, dans la relation avec nos parents ? Et là, j'attendais un gros amen, en fait. D'accord. Ouais, je crois que le Saint-Esprit nous équipe pour honorer nos parents et éduquer nos enfants. Des enfants remplis du Saint-Esprit, des parents remplis du Saint-Esprit, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bienfaisant pour nos familles, mais même pour toute notre société. Et dans le passage qu'on a vu récemment, en fait, au chapitre 5, verset 18, il nous est dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Et c'est en pratiquant ces choses-là que le Saint-Esprit peut vraiment prendre progressivement de plus en plus de place dans notre vie, dans nos familles. Dernière fois, on a vu que le Saint-Esprit, lorsqu'il prenait vraiment toute sa place dans le couple, ça changeait profondément la vie du couple. Est-ce que les couples chrétiens sont meilleurs que les couples non chrétiens ? Non. Par contre, oui, on a les mêmes soucis, on a les mêmes chutes, mais le Saint-Esprit est là pour nous tirer vers le haut. J'entendais encore récemment cette anecdote, un couple, ils se sont chamaillés, ils se sont peut-être même insultés, et le lendemain, en fait, le mari il revient avec des fleurs pour sa femme, et la femme elle dit « Mais comment tu peux me ramener ça alors qu'on s'est tellement chamaillé, quoi, c'était violent ?» Elle fait « Mais là, je te sors ce qui vient de mon cœur, c'est des fleurs, c'est quelque chose de bon pour toi, c'est pas... » c'est pas les mots qui viennent de sortir, mais c'est ça la réalité de mon cœur pour toi. C'est la réalité du Saint-Esprit qui agit en moi. Et dans nos familles, pour en tant que parents et enfants, il peut se produire des choses similaires. Et c'est ce que je nous invite à découvrir ensemble. Des enfants et des pères qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est tellement bienfaisant. Et on va lire ces quatre versets, chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et les avertissant et des avertissements qui viennent du Seigneur. En tant que parents chrétiens, parfois on suppose que nos enfants, parce qu'ils ont prié une fois, Jésus rentre dans mon cœur, que l'enfant appartient à Jésus, qu'il est éternellement sauvé. Et il peut l'être, mais peut-être que non. Les enfants comme les adultes peuvent être convaincus que vivre pour Jésus et ce que Jésus veut nous donner, c'est génial et on en a besoin. Tout le monde veut être l'ami de Jésus. Mais la contique, c'est-à-dire quand on vit cette transformation profonde, c'est un miracle. Ça consiste à venir de la mort vers la vie. Et ça, c'est seulement Jésus qui peut le faire. Et c'est ce que Jésus appelle chacun de nous à vivre et à expérimenter. C'est une expérience qui est personnelle, que personne ne peut faire ou vivre à ta place. Ça nécessite que le Saint-Esprit il te convainc que tu as besoin de Jésus, que tu ne peux pas vivre par tes propres forces, mais que tu as besoin de Jésus. Et là, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Tu passes de la mort à la vie. Tu regardes enfin à ce que Jésus a de bon pour toi. Tu commences à changer ta façon de penser parce que tu commences à penser comme Jésus lui-même pense. Et un enfant né de nouveau, que ce soit un jeune enfant, peut-être un ado, ou peut-être quelqu'un qui peut-être la trentaine, la quarantaine ou 70 ans, ben ça va porter du fruit. Vous savez, les arbres, quand on vient les voir, on est content qu'il y ait du fruit. Est-ce que vous êtes content qu'on ait un pommier qui a des fruits ?
Oui.
Eh ben, moi, je suis content de voir quand il y a des enfants spirituels qui portent des fruits, qui sont en train de grandir, et on est en train de les observer, et on se dit, waouh, il se passe quelque chose de beau, de génial. Et c'est ce que nous voulons expérimenter dans notre église, dans nos familles. Alors, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'il obéira toujours parfaitement ? Vous, les ados, vous en pensez quoi ? Non, je vois des gros noms comme ça. Non ! Toutefois, je pense que quand le Saint-Esprit agit en nous, on a envie d'obéir joyeusement à nos parents, on a envie d'obéir joyeusement à Dieu. Et on aura le désir, en fait, de suivre le modèle de Jésus, même si ce n'est pas toujours facile. Et la désobéissance et le péché, c'est-à-dire quand on fait des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous, quand on loupe cette cible parfaite du modèle de Jésus, ben ça va nous amener finalement à une saine tristesse. Pas une tristesse de morfondre, mais une tristesse de dire « j'ai loupé le coche, mais là maintenant je peux m'attendre à Jésus, je peux lui demander pardon, je peux lui demander de régler ce problème dans ma vie sur lequel je bute semaine après semaine. Est-ce que c'est la colère ? Est-ce que c'est le fait de jamais être satisfait de ce que j'ai ? Est-ce que c'est la convoitise ?» Et c'est là où on peut demander à Jésus, voilà. Je suis passé à côté, mais je compte sur toi pour cette nouvelle semaine. Et lorsqu'une personne, enfant ou adulte, rencontre Jésus, il y a un changement révolutionnaire qui s'opère dans son cœur. Cette personne est alors dirigée par le Saint-Esprit. Elle est vraiment inspirée pour suivre la volonté de Dieu. Et elle voudra, et je ne dis pas qu'elle pourra à chaque fois, je dis elle voudra plaire à Jésus en premier. Parce que Jésus, il connaît nos pensées, il sait tout ce qu'on fait dans les secrets, mais on voudra plaire à Jésus. On voudra obéir aux commandements de Jésus. Est-ce que vous connaissez des commandements de Jésus ?
Tu aimeras ton prochain.
Oui, tu aimeras ton prochain et ton Dieu comme toi-même. Et Jésus rajoute même parfois, même ses ennemis. C'est pas facile, hein. Est-ce qu'on y arrive toujours? Non, mais est-ce qu'on veut? Oui. Jésus, qu'est-ce qu'il demandera encore? Oui, il demandera aussi de se faire baptiser pour suivre son exemple. Il demandera de prendre régulièrement la Sainte Cène, la communion avec les frères et les sœurs pour être en communion avec Dieu et se rappeler que Jésus, il est mort pour moi, il est ressuscité et il nous attend dans la maison du Père. Qu'est-ce qu'il va encore nous demander? Il va nous demander de former des disciples. Pas juste de dire bah, « Jésus t'aime ». Il te demande d'accompagner quelqu'un à expérimenter. Quand parfois on loupe la cible, quand on trébuche, relève-toi. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais tiens, il y a ce passage-là de la Bible, ça m'a encouragé quand ça m'est arrivé. C'est ça, former des disciples. On voudra connaître davantage la personne de Dieu. Comment est-ce que je peux ressembler à Jésus à l'école, dans le collège, au lycée, au travail? Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si tous les enfants devaient obéir et honorer à leurs parents, c'est le cas. Tous les chrétiens, chrétiens ou non, tous profitent aussi des bénédictions. Il ne suffit pas simplement d'être chrétien pour profiter de ces bénédictions. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui honore ses parents, il profite des bénédictions de Dieu. Toutefois, seulement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit peuvent le faire dans le Seigneur. C'est-à-dire guidés par Jésus, dans l'optique aussi des commandements que Jésus nous a laissés. C'est-à-dire faire plaisir à Dieu, honorer et obéir, même lorsqu'on découvre que nos parents ne sont pas parfaits. Désolé peut-être d'avoir cassé un mythe pour nos collégiens. Vos parents ne sont pas parfaits. Les anciens ne sont pas parfaits. Les pasteurs ne sont pas parfaits. Et même les personnes âgées ne sont pas parfaites. Alors pourquoi obéir à quelqu'un qui n'est pas parfait? Pourquoi? Parce que cela est juste. C'est ce qu'on a lu avant, c'est que nous devons nous soumettre les uns aux autres en fonction de ce qui est juste, de ce qui est instauré par Dieu. Et ce n'est pas facile. Mais cela est juste d'un point de vue biblique. Et c'est pour ça que je voudrais juste poser deux limites à cette obéissance. L'obéissance aux parents, elle s'applique tant que ce qui est demandé reste dans le cadre de la volonté de Dieu qui est décrite dans la Bible. C'est-à-dire, si ton père te dit bah, « t'as qu'à tricher au prochain devoir », tu peux lui dire « je pense pas que c'est Jésus qui me demande ça ». Mais que faire? On peut expliquer justement « moi je suis pas à l'aise avec ça, ça correspond pas à ce que moi je comprends de la parole de Dieu ». On peut dire qu'on est triste de ne pas pouvoir obéir à cet ordre qui colle pas à ce que Jésus demande. Et que ça nous rend triste de ne pas pouvoir répondre positivement à cette demande des parents. Après, c'est l'avantage d'avoir des parents qui connaissent Christ, parce qu'il va nous emmener à rentrer dans ce qui est demandé par Jésus. Moi, je connais un ami, à l'âge de à peu près 17 ans, en fait, il a commencé à fréquenter une copine, et ils ont commencé à s'installer ensemble. Et puis là, il a rencontré Jésus, et... ses parents, du coup, il a dit, on va arrêter de vivre ensemble, et puis par contre, je veux vraiment me marier avec elle, mais je veux revenir à la maison. Ses parents ont refusé. C'est des amis de l'Église, en fait, qui l'ont hébergé pendant 2-3 ans. Il y a des situations comme ça, c'est pas facile d'être un disciple de Jésus, même quand on est un enfant, et que nos parents ne comprennent pas. Mais l'obéissance aux parents, elle est aussi limitée dans le temps. Au moment où vous quittez l'autorité de vos parents, vous n'êtes plus obligé de leur obéir. Et ça veut dire que les parents, nous, on devrait progressivement donner à nos jeunes la possibilité de s'assumer, d'assumer les responsabilités du quotidien et aussi les conséquences de leurs choix, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient capables de fonctionner par eux-mêmes, prendre leurs décisions, les assumer et un jour fonder une famille et s'occuper eux-mêmes d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus aller chez un parent et lui dire « Est-ce que tu n'aurais pas un conseil pour moi dans cette situation ?» Bien sûr, il faut profiter de l'expérience des parents, profiter aussi des frères et des sœurs dans l'Église qui ont peut-être plus d'expérience. Mais ça nécessite qu'à un moment, ça va être nos choix, ça va être nous qui vont assumer les conséquences de nos choix. Et ça commence très tôt, en fait, hein, parce que c'est vous qui allez sans doute quand même choisir vos orientations pour l'école, choisir comment vous utilisez votre temps libre, comment vous choisissez votre futur métier, et ainsi de suite. Mais ce qui durera toujours, c'est cette parole. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il s'agit d'une citation qui se trouve dans les 10 commandements. Et honorer implique une attitude de respect et d'estime envers les parents. Le mot qui est utilisé dans les 10 commandements implique finalement de donner du poids aux parents, donc pas qu'ils sont gros, hein, mais leur donner du poids dans nos relations, dans nos choix, dans leur... Finalement, ils auront une gloire aussi dans le fait que les enfants les honorent. Ça veut dire finalement être en opposition à traiter ça avec légèreté, de dire « bon, je m'en fiche de ce que tu penses, je m'en fiche de ce que tu me conseilles ». Honorer les parents, c'est d'avoir une attitude de respect envers eux et finalement de simplement apprécier leur contribution à nos vies. Se rappeler que quand on hurlait pendant la nuit, c'est eux qui venaient nous consoler. Dan, tu t'en souviendras. Honorer nos parents, c'est leur attribuer une place de valeur et cette attitude de respect et d'estime, ça se traduira dans la majorité des cas par un comportement qui est aimant, leur montrer une relation chaleureuse. Après, parfois, on peut aussi avoir des parents, c'est plus difficile, on a vécu des choses difficiles, mais on peut au moins rester dans quelque chose de courtois, c'est-à-dire dans une relation qui est le plus apaisée possible, avec du respect. Alors, honorer nos parents, c'est tout d'abord parce que Dieu le commande. Honorer nos parents, c'est aussi profiter des bénédictions que Dieu associe à cette action. Alors, est-ce que tous vivront vieux et heureux parce qu'ils auront honoré leurs parents? À votre avis? Il y a des oui, des non. Ouais, bof, hein. Non, c'est pas une garantie. En fait, dans le livre des Proverbes, en fait, il y a beaucoup ce type d'expression. Et ce n'est pas une équation mathématique. Donc les profs de maths, souvent, ils sont un peu déstabilisés avec ça. Mais pas Latra, lui, il est vraiment bien, il a bien compris le truc. C'est plutôt un conseil de bon sens. C'est, on va te dire, comme dans l'agriculture, ne plante pas avant que l'essaim de glace soit passé, sinon ta semence va geler. Mais il y a toujours quelqu'un qui dit, bon, on va quand même tester. Je ne pense pas à toi, Nadia. Mais c'est dans ce sens-là, c'est des principes de bon sens qui nous permettent d'avoir une vie qui est bienfaisante. Et parfois aussi, on peut avoir des difficultés relationnelles et ça peut avoir des impacts négatifs. Je pense qu'on a déjà tous eu ce genre de choses où parfois on n'était pas bien dans une relation. Ça commence à avoir un impact même sur notre santé. On commence à avoir des aigreurs d'estomac, des maux de tête, ce genre de choses. Et je pense que le fait de vouloir avoir une relation qui est bienfaisante avec nos parents, ça nous préserve aussi de tout ça. Honorer nos parents parce que nous voulons honorer Dieu. Que faire lorsque nous avons aussi vécu peut-être une enfance qui est difficile, en raison peut-être d'un parent qui est absent, peut-être quelqu'un qui nous a fait même très mal, un parent qui nous a fait très mal. On peut pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi ? On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est simplement de dire, voilà, j'ai vécu ces choses-là qui ont été douloureuses, et je ne veux pas juger moi, mais je veux le confier à Dieu. Dieu, il sait ce que j'ai vécu. C'est Dieu qui va juger de cette situation. Et je pense que beaucoup qui ont vécu des injustices, au moment où ils ont confié ce fardeau à Dieu, ont senti vraiment un poids tomber de leurs épaules, et je pense que c'est vraiment ce à quoi nous pouvons aspirer, ce que nous pouvons demander à Dieu. Ça veut dire ne pas faire semblant aussi. Si c'est passé des choses difficiles, ça s'est passé, on ne peut pas jouer à la famille parfaite non plus. Mais nous pouvons être une passerelle finalement entre Dieu et nos parents. Peut-être la relation elle est chaotique, mais l'évangile de Jésus-Christ est puissant. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut ramener à la vie ce qui est mort. En Romains chapitre 12, verset 20, il dit « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Alors quand j'étais enfant, que j'ai lu ça, je me suis dit « En fait, ça doit être pour le piquer. » On lui fait du bien, comme ça, ça le frustre, ça l'embête. Et après, j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Poser des charbons ardents sur sa tête, c'est à l'époque, pour allumer un feu, c'était pas facile. Et quand il fait froid, le froid nous amène à la mort. Et là, c'est de ramener la vie en donnant le feu. Est-ce que ce matin, tu peux donner le feu à quelqu'un pour qu'il ne meure pas de froid ? Est-ce qu'on peut remettre de la chaleur dans une relation qui est refroidie aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut réinsuffler l'amour de Dieu dans quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie ? Je le crois. Pas par nos propres forces, mais l'Esprit de Dieu, quand il se sert de nous, il se passe des choses extraordinaires et magnifiques. Et là, même s'il vous ignore, s'il vous moque, vous pouvez les respecter comme des créatures conçues à l'image de Dieu. Comment faire ? C'est pas forcément d'aller faire le plus gros câlin du monde, mais peut-être déjà d'envoyer une carte de vœux à des occasions un peu particulières, un anniversaire, Noël, un petit encouragement. Et je pense surtout prier, parce que ceux qui ont le besoin le plus au monde, c'est de rencontrer Jésus. Et c'est ça qu'on peut expérimenter, même si c'est pas facile, en tant qu'enfant rempli du Saint-Esprit. C'est pas y aller par nos propres forces, mais faire un pas après l'autre avec les forces que nous donne le Saint-Esprit, en comptant sur des miracles. Après, il y a un message pour les pères, donc ça va piquer. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et les mères, elles sont où là-dedans ? C'est ce que je me suis dit en le lisant. Je pense que les deux parents sont concernés et doivent se sentir concernés. Mais Paul, là, il est en train de dire « Hey, toi, le papa, t'es où ?» Pourquoi ? Parce que je pense qu'en tant que père, en tant qu'homme, on est facilement passif. Est-ce que je me trompe ? Certains disent « Ça se discute ». On est passif, pas forcément devant un match de foot, mais parfois on est passif dans nos relations, avec parfois même un copain, parfois avec notre épouse, et parfois avec nos enfants. On a du mal à prendre le leadership relationnel et spirituel. Parfois on a même du mal à s'investir dans la vie familiale. Et c'est là où on a besoin, en tant que père, d'être présent. Et aussi de se rappeler qu'on ne fait pas tout seul, mais qu'on a une responsabilité de veiller à l'éducation de nos enfants et d'y être personnellement impliqué. Et je le dis pour moi, personnellement, ce n'est pas toujours facile. C'est tellement plus facile de continuer son chemin alors qu'on sait qu'on devrait agir. Nous avons à veiller sur notre relation avec nos enfants afin de ne pas les irriter inutilement, de créer de l'amertume qui vont les faire trébucher et peut-être même les amener dans le péché. Et je voudrais juste aborder deux aspects. Les pères ne doivent pas provoquer la colère, la frustration, la rébellion de leurs enfants. Comprenez qu'au moment où Paul il écrit ça, c'est totalement révolutionnaire. C'est un monde gréco-romain, 1er siècle après Jésus-Christ, et les pères avaient toute autorité, autorité absolue dans leur famille. Ils avaient même le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Imaginez quand il dit maintenant, bon les pères, n'irritez pas vos enfants. Ça c'est le message d'amour de l'évangile. Ça allait à contresens de toute la culture qui se faisait. Mais c'est là où on a besoin de se rappeler que ce qui fait notre culture, c'est la culture de Dieu, c'est la culture des hommes. Et ces quelques versets sont révolutionnaires, et je crois encore aujourd'hui sont révolutionnaires. Ne les irritez pas, ne les frustrez pas. Mais encouragez-les dans les voies de Dieu. Cela implique pour les pères de refuser de nous laisser guider par la colère, par des frustrations, par des irritations? Est-ce que cela est facile lorsque nous traversons des temps difficiles? Peut-être des temps où c'est difficile au travail, peut-être des temps où c'est difficile dans le couple, peut-être par le manque de sommeil, peut-être parce qu'on a des difficultés financières. Non, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on sera toujours calme? Est-ce qu'on sera toujours serein, encourageant, parfait? Non. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Et en tant que père et parent dirigés par l'Esprit, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous diriger, de nous donner des forces nouvelles, de nous donner la patience, de la sagesse. Et souvent, quand je ne parle pas juste dans la relation avec les enfants, mais quand il y a des relations un peu difficiles avec d'autres personnes, je m'appuie souvent sur 1 Corinthiens 13 que je relis et je dis « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ». Souvent, c'est ces versets qu'on lit pour les mariages, alors qu'en fait, finalement, c'est les versets qui s'appliquent à l'Église, qui s'appliquent à nos relations même avec nos voisins et nos collègues. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Cette prière, elle est puissante, quand parfois on ne sait plus comment aimer, ben, ça peut nous aider. Vous faites un petit tour, vous priez ça, je pense déjà que ça permet de revenir avec une bonne bouffée d'oxygène. Et lorsque nous avons une attitude qui n'est pas juste, donnons une punition qui n'est peut-être pas justifiée ou proportionnée, nous devrions aussi, en tant que parents, présenter nos excuses. Une fois, je discutais avec un ami qui est chrétien, qui était dans notre église, qui était policier. Et il disait qu'en fait, quand il a commencé son métier de policier, c'était assez difficile pour lui, parce que parfois, il était envoyé dans des interventions, et puis il fallait calmer les gens. Et parfois, il ne suffisait pas juste de leur parler. Donc il disait, si la personne, elle mérite 3 coups de matraque pour être calmée, la 4e, c'est péché. Alors, je ne dis pas qu'il faut matraquer les enfants, vous comprenez bien. Mais en fait, je pense que souvent, on ne sait pas comment exercer l'autorité. Il y a une question de justice, de proportionnalité, et c'est quoi l'objectif visé? Et je vous propose d'aborder ensemble quelques pistes concrètes sur lesquelles nous pouvons être attentifs dans notre quotidien. Des pistes dans lesquelles nous pouvons progresser pour rendre gloire à Dieu dans notre parentalité. Elles s'adressent aux pères en particulier, aux parents aussi, mais je pense que ça peut nous interpeller dans beaucoup de nos relations, et je pense aussi particulièrement dans l'Église en tant que mère et père spirituel. Nous avons chacun à veiller les uns sur les autres, et notamment les plus jeunes dans la foi, et c'est pour ça que nous sommes chacun concernés, je pense, dans ce côté d'accompagner à la croissance spirituelle. Premièrement, attention aux caprices. Un jour, peut-être pour une maladresse ou une légère infraction à une règle de la maison, on explose et on punit de manière disproportionnée. Et le lendemain, on laisse passer quelque chose qui reste impuni. Par exemple, l'enfant dit un gros mot un jour et là, sans faire exprès, bien sûr, et là, on le punit pour toute la semaine, tu ne sortiras plus cette semaine. Le lendemain, on l'entend qui est en train d'insulter, mais copieusement, son camarade de classe, et là, on dit rien. C'est une question de proportion et de comprendre la situation. Comment est-ce qu'on exerce notre correction? Est-ce que c'est en fonction de l'humeur du jour, si on est plus ou moins énervé, si on a plus ou moins d'énergie? Est-ce qu'on est cohérent dans notre relation avec nos enfants? Certains pères, et je pense qu'on l'a déjà vu, agissent même de manière intentionnelle à maintenir finalement cette peur. On ne sait jamais où on en est avec lui. Une fois, il va nous tomber dessus pour une broutille. La fois suivante, il ne dira rien du tout. Et cette façon de fonctionner ne reflète pas du tout, je pense, Dieu le Père, qui est immuable, stable dans son amour envers nous. Deuxièmement, attention aux abus d'autorité. Est-ce que nos demandes sont cohérentes et orientées vers l'éducation de l'enfant? Ou bien refusons-nous toute discussion avec l'enfant pour comprendre sa situation, ses motivations, au prétexte « c'est moi qui décide, tu obéis, c'est tout ». Bien sûr, à un moment, c'est nous les parents, on a besoin de stopper une conversation. On n'est pas là non plus pour faire un concours d'éloquence. Mais par contre, parfois, est-ce qu'on est suffisamment à l'écoute? Et est-ce que parfois, on sait aussi dire « stop, maintenant, ça suffit ». Attention au favoritisme. Est-ce qu'on traite tous nos enfants avec les mêmes critères objectifs? Ça ne signifie pas traiter chaque enfant exactement de la même manière, de les punir de la même manière. Nous apprenons aussi, en tant que parents, au fur et à mesure, à traiter nos enfants de la bonne façon, avec une certaine tolérance et justice, je pense, parce que finalement, nous grandissons en maturité. Et on ne va pas forcément traiter nos enfants comme son grand frère ou sa grande sœur. On laissera peut-être plus de liberté à un enfant, parce que finalement, il sera peut-être plus capable de la gérer qu'un autre. Attention à la paresse. Les enfants contribuent avec leurs moyens au bon fonctionnement du foyer, mais ils ne sont pas là pour faire ce que nous ne voulons pas faire parce que nous sommes paresseux. Attention au perfectionnisme. J'ai un de mes anciens collègues qui a privé de sortie son fils parce qu'il devait travailler plus, parce qu'il n'avait que 18 de moyenne. Autant qu'il travaille plus. C'est là que c'est bon de se rappeler que les enfants ne sont pas là pour accomplir nos projets ou nos rêves. Nous, on est là simplement pour les amener à rentrer dans les voies de Dieu. Attention aussi à la sensibilité de l'enfant. Tous les enfants n'ont pas la même sensibilité. Certains, on leur fait juste un petit reproche. Là, tu aurais pu faire un peu plus attention et ils s'effondrent complètement. D'autres sont plus coriaces et nécessitent plus d'autorité. Puis il y a la question de notre disponibilité. On n'est pas seulement là pour faire des agents judiciaires, mais on est là pour prendre soin de nos enfants et s'investir personnellement pour eux. Et je pense que ce n'est pas forcément une question de quantité de temps, c'est une question de qualité de temps. Plus on a d'enfants, et on a tout le temps le même temps, donc on est obligé de viser la qualité, pas la quantité. Mais est-ce que quand on est avec nos enfants, on est vraiment avec eux? Moi, ça m'a repris quand j'ai pensé à ça. Est-ce que lorsque je suis avec mon enfant, est-ce que je suis vraiment avec lui? Attention aux promesses. Nous pouvons rapidement perdre toute crédibilité lorsque on loupe nos engagements envers eux, mais aussi quand à chaque fois ils nous voient louper nos engagements envers tous ceux avec qui on s'engage. C'est là, c'est bon de se rappeler que Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y rajoute vient du mal. En pensant au fait de jurer, mais peut-être aussi au fait de trouver des excuses à chaque fois. Attention à l'hypocrisie, nous avons bien vu. De toute façon, par contre, ce qu'on voit dans ce texte, c'est surtout une attitude de cœur. Ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur, c'est est-ce que je suis vraiment vrai dans ma relation avec mes enfants? Lorsque je lui dis de respecter leur mère, est-ce que moi-même je respecte mon épouse? Sommes-nous cohérents entre nos paroles, nos actes et nos attitudes? Est-ce que je pilote ma vie de manière à ce que mes relations soient bâties sur l'amour de Dieu? Est-ce que je suis vrai dans mon quotidien? Enfin, attention à ne pas blesser. Il y a des situations où parfois il faut reprendre sévèrement pour le bien de l'enfant, mais attention à ne pas blesser verbalement, physiquement ou à briser la personnalité d'un enfant. Deuxième aspect, les pères doivent contribuer à la maturité de leur enfant, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Vous savez, quand il y a eu les persécutions en France contre les protestants, les premières choses qui étaient faites, c'était de sortir les enfants du foyer pour les rééduquer. C'est ce qui se fait dans les pays communistes, c'est l'État qui éduque les enfants. Une fois, dans notre ancienne église, il y a le sel qui est venu et a pu fuir la Corée du Nord, et elle a eu un témoignage, je m'en souviendrai toute ma vie, elle a dit « À l'école, on nous disait que si on voyait nos parents avec un petit livre, il fallait leur en parler. » Elle a vu son parent avec un petit livre comme celui-ci, Elle l'a dit à son maître d'école, elle n'a plus jamais revu son parent. C'était une Bible. Ça montre toute l'importance du rôle de la famille. Ces systèmes-là l'ont compris. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons compris l'importance de la famille ? L'Église, c'est une super aide pour prendre soin les uns des autres et prendre soin collectivement de nos enfants. Mais le premier responsable des enfants et de leur éducation et de leur apprendre qui est Jésus, c'est toi en tant que parent. Alors que faire si en tant que parent, tu ne connais peut-être pas très bien la Bible encore ? Pourquoi pas simplement prendre un livre à lire ensemble en famille ? Il y en a plein là-bas qui se trouvent au fond du couloir. Ça peut être des livres comme Trop beau, ce genre de livres que l'équipe librairie seront très contents de vous montrer. Il y a aussi un livre de Paul Tripp sur l'éducation des enfants que je vous invite aussi à lire. Ça peut être par exemple d'écouter un podcast sur le catéchisme. Il faut savoir que ce qui s'est passé à la réforme protestante, c'est que Luther, par exemple, a écrit un catéchisme, Calvin a écrit un catéchisme, pour que le père puisse enseigner à l'enfant qui est Jésus, mais plus encore. C'est quoi la Trinité, par exemple ? C'est quoi l'Église ? Pourquoi on prend la Sainte Cène ensemble ? C'est tout à fait accessible et on a des outils pour cela. Nous-mêmes, on a un catéchisme qui est en vidéo, qui se trouve sur notre site internet. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ça implique de les nourrir, de les faire grandir, de les tirer vers le haut pour les amener sur le chemin de la maturité spirituelle. Le premier disciple que nous avons à former, c'est notre enfant. Éduquer, ça veut dire instruire, ça veut aussi inculquer la discipline dans nos relations, bien sûr, mais aussi la discipline spirituelle. Est-ce que nos enfants, est-ce qu'on a un modèle pour eux dans notre vie de prière, dans notre lecture de la Bible, dans notre fréquentation de la vie de l'Église ? Ça veut aussi, on parle d'avertissement, ça veut dire parfois une réprimande, une exhortation, une correction. Cela signifie corriger ou avertir ou encourager fortement quelqu'un à changer de comportement pour passer des attitudes pécheresses, destructrices et destructrices à des attitudes qui viennent du Saint-Esprit. Il s'agit de faire appel à la volonté des enfants et de les encourager à prendre la responsabilité de leurs actes. Un père se doit d'avertir ses enfants avec humilité. Un père, ce n'est pas un Superman de la foi ou quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui a ses propres faiblesses et qui peut parler à son enfant, lui dire « Moi aussi, j'ai galéré à ton âge. » Mais ensemble, on peut faire un pas de plus ensemble. Et ça veut dire reprendre avec amour, avec une profonde préoccupation de la croissance spirituelle de l'enfant pour qu'il puisse connaître Dieu. Dieu le Père, Dieu qu'il aime avant même qu'il naisse. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui est pour les parents chrétiens, dans le Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une question d'éducation pour que notre enfant soit gentil ou donne l'impression qu'il est gentil, qu'il ait beaucoup de connaissances, qu'il ne connaisse que des mots de 4 et 5 syllabes. Ce n'est pas forcément non plus juste d'en faire un bon citoyen qui ne fera pas de vol et de meurtre, mais c'est de présenter une personne devant Jésus de manière mature, dans son quotidien. Comment est-ce que je réagis lorsqu'il m'arrive une tuile en tant que parent ? Est-ce que je commence par la prière ? Est-ce que je peux témoigner à mes enfants des bonnes choses que Dieu accomplit dans notre famille, dans notre quotidien ? Où sont ces espaces dans la semaine ? Comment est-ce que je témoigne à mes enfants dans la semaine de ce que Dieu accomplit dans ma vie, dans notre famille ? Comment notre semaine, en tant que famille, témoigne de l'importance de Jésus et de son Église dans notre quotidien ? C'est pour ça que je vous encourage à utiliser les livres, mais à vivre l'Église. C'est un lieu qui est tellement important pour apprendre à grandir tous ensemble. Comment dire qu'il faut respecter la loi ? Si je grille tous les feux rouges en venant au culte. Comment apprendre à pardonner si à chaque repas de famille, on dénigre toutes les personnes qu'on connaît ? Comment punir un enfant qui arrive en retard de chez son copain de 15 minutes, alors que moi je suis systématiquement en retard à tous mes rendez-vous et au culte? Nous n'avons pas l'obligation de résultat. Nous ne pouvons pas avoir la garantie que, même en donnant une bonne éducation, nos enfants ne deviennent pas des criminels. Ou bien aussi, malgré une bonne éducation chrétienne, que notre enfant décide de suivre Jésus. Ce n'est pas comme ça. Mais nous avons une obligation de moyens tant que les enfants sont sous notre responsabilité. Et c'est là où je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Y a des enfants qui, systématiquement, n'arrivent pas à obéir. Ça peut être simplement parce qu'ils cherchent les limites des parents pour voir est-ce que mon père ou ma mère est vraiment cohérent entre ce qu'il me dit et ce que je dois faire. Ça peut aussi être parfois un enfant qui n'arrive pas à trouver sa relation, sa place dans la famille, et peut-être il faut l'aborder d'un autre point de vue. Ou alors ça peut être de remettre systématiquement l'autorité des parents en jeu, parce que pourquoi ça ne serait pas lui qui décide finalement? Après, c'est bon de se rappeler que les enfants, pour s'épanouir, pour trouver leur place, pour comprendre leurs responsabilités, ils ont besoin de repères, et les premiers repères, ce sont les parents. Et ce n'est pas simple pour les parents parce que ça change au fur et à mesure de la vie des enfants. Ce n'est pas la même chose avec un bébé de 12 mois qu'avec un ado de 12 ans. Ça nécessite de la souplesse, de la sagesse et de la compréhension. Ça nécessite aussi parfois de voir que simplement, pourquoi mon enfant a mal réagi, c'est parce qu'il est épuisé. Ça ne sert à rien d'en rajouter. S'il est excité d'une activité, ça ne sert à rien de le gronder à ce moment-là, il ne captera rien. C'est savoir être indulgent. Mais par contre, si on voit des automatismes qui s'installent, de systématiquement remettre en question, de tout discuter, c'est là où c'est nécessaire d'être plus rigoureux. Parfois aussi, et je pense que nous, en tant que chrétiens, parfois on a un peu de mal à se tourner vers la médecine pour ce genre de choses, il y a des enfants qui ont des troubles, des apprentissages ou de l'attention, et parfois ça nécessite aussi d'aller voir le médecin pour peut-être se faire accompagner, parce que voilà, c'est aussi des choses que Dieu nous met à disposition pour cela. Et cette obligation de moyens des parents, elle est proportionnée avec l'autonomie des enfants. C'est pour ça que tant que les enfants sont sous notre responsabilité, qu'ils ne sont pas encore capables d'assumer les responsabilités de leurs actes, c'est nous qui les assumons. Mais quoi faire si, par exemple, il y a un de mes enfants, qui a peut-être 25 ans, qui est devenu un délinquant, qui est en prison? On n'est pas responsable de ses actes à cet âge-là, mais on a quand même encore une obligation de moyens. Est-ce qu'on va aller voir cet enfant en prison pour l'encourager, pour lui présenter Jésus-Christ, pour lui dire qu'il y a encore un avenir devant lui? Et comprenez bien qu'en tant que parents chrétiens, on n'est pas meilleur que des parents non chrétiens. Et je connais des parents qui ne sont pas chrétiens, qui sont des super parents, qui sont vraiment des modèles pour moi. Mais ça nous interroge sur le fait, est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit? Est-ce que l'amour de Dieu, est-ce que ça transcende dans ma relation avec mes enfants? Si mon enfant devait retenir une vérité fondamentale de moi, qu'est-ce que ça serait? Si mon enfant devait retenir une vérité fondamentale de ma part, qu'est-ce que ça serait? En tant que chrétien évangélique, nous croyons que chacun doit se déterminer personnellement dans sa foi envers Jésus, déclarer que Jésus est son sauveur, le chef de sa vie. Mais une fois, j'ai entendu un parent dire « Je ne parle pas de Jésus à mon enfant. Je ne veux pas l'influencer. » Comme ça, il fera son propre cheminement. J'ai été choqué. Si nous ne présentons pas Jésus à nos enfants, mais qui le fera ? Si nous n'influençons pas nos enfants afin qu'ils connaissent une vie abondante et éternelle fondée sur Jésus-Christ, soyez assurés que d'autres influences seront là pour l'influencer vers la mort éternelle, vers la destruction, vers la débauche. Et juste pour citer quelques rappels de la Bible, Proverbe 22, je ne vais pas citer toutes les références, ça va s'afficher. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il n'en s'en détournera pas. Comme là, ce n'est pas une opération mathématique, mais au moins on le lance dans quelque chose de bon. On lui montre le chemin à explorer. seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses et que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Comprenez que la première responsabilité envers nos enfants ne consiste pas à ce qu'ils réussissent de brillantes études, que ça devienne des sportifs ou des grands virtuoses, qu'ils aient les meilleurs jobs, qu'ils deviennent PDG d'EDF, ni même qu'ils soient heureux ou même gentils. Notre responsabilité de parents chrétiens est de leur présenter la personne de Jésus-Christ, de leur témoigner concrètement comment Jésus a la première place dans ma vie. C'est quelque chose qui ne s'invente pas, mais qui se vit. Et là, je fais le lien avec la prédication qu'on a entendue la semaine dernière dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 29. Sa prédication s'est un peu terminée sur ça. C'est Élie qui n'a pas repris ses enfants, qui n'a pas repris des prêtres qu'il avait à sa charge. Et Dieu lui pose cette question. « Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ?» J'ai relu ce verset cette semaine et je me suis dit « Waouh !» Est-ce que Dieu a vraiment la première place ? Comprenez bien l'implication concrète là derrière. Est-ce que je peux vraiment aimer mes enfants comme me le demande Dieu si Dieu n'est pas en premier dans ma vie? Je pourrais seulement aimer mes enfants comme Dieu me le demande si Dieu est le premier dans ma vie. En tant que parents, nous ferons des erreurs, nous ne serons pas toujours au top, mais nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Et c'est là où c'est tellement important. Que nous désirions de tout notre cœur d'être des pères, des mères, des parents remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez qu'être enfant, être père, être parent, ce n'est pas facile, mais c'est un mandat tellement précieux que Dieu nous donne. Je peux imaginer de très loin le défi que c'est pour des parents qui sont séparés, des familles recomposées, des familles monoparentales. Mais là, je me dis que Jésus, lui aussi, il a vécu ces questions-là. Il a été frustré parfois de ne pas toujours avoir été compris par Joseph et Marie. Mais à un moment, ce que Dieu dit, c'est qu'il a pris tout son plaisir en Jésus parce qu'il a obéi à son Père jusqu'à la mort sur la croix. Et je me dis, c'est tellement un modèle, Jésus, pour nous. Jésus s'est aussi sacrifié à la croix pour donner la réconciliation dans les familles. Donner un cœur nouveau aux parents, donner un cœur nouveau aux enfants, pour restaurer ce qui est brisé. Et Saint-Esprit nous équipe pour honorer nos parents et éduquer nos enfants. Je vous invite à la prière. Oui, Père, on est reconnaissant pour ces quelques versets qui sont présents ici et qui nous instruisent tellement sur qui tu es et ton amour qui est tellement grand pour ce monde. Que tu laisses des personnes aussi imparfaites que nous prendre soin de nos enfants. Mais nous voulons nous rappeler que tu es là, à nos côtés, dans les bons moments où on veut te rendre grâce, on veut te remercier. Et aussi dans les moments plus difficiles, nous savons que tu es à nos côtés. Et je te prie, s'il te plaît, que nous soyons des bons parents, des bons enfants, pas selon le monde, mais bon, selon toi, selon l'amour que tu déverses en nous, selon ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que dans notre Église, nous sachions éduquer nos enfants sur ce qui est essentiel. Je te prie, s'il te plaît, que nos enfants comprennent que c'est toi notre tout, que c'est toi qui es le plus important dans nos vies. Et je te prie qu'en tant qu'Église, nous sachions prendre soin les uns des autres, être des pères et des mères spirituels, les uns pour les autres, pour que nous soyons formés à l'image de Jésus dans tous les aspects de nos vies. Et je te prie encore que tu puisses, dans notre Église, vraiment nous amener à prendre toute la juste dimension de la mission tellement importante que tu nous donnes d'être des parents et des enfants remplis du Saint-Esprit. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.